La terre, elle brille, en fait. Elle est d'un bleu brillant, elle luit.
Houston, we have a problem.
It's one small step for man. One giant leap for mankind.
L'histoire de l'espace.
Puis la Terre, c'est immense, on est vraiment tout petit.
En visitant des planètes, nous sommes de nouveau Christophe Colomb, qui découvrons des terres nouvelles, qui jusqu'à présent n'étaient que des petits points de lumière dans le ciel, d'une part. Et d'autre part, nous plaçons des engins qui reçoivent les lumières X, gamma, infrarouge, ultraviolet, de toutes les longueurs d'onde. Et ces lumières de toutes les longueurs d'onde nous apportent toute l'information des astres, information que jusqu'à présent nous n'avions pas.
Creating a self-sustaining civilization on Mars. It would be the greatest adventure ever.
Et voilà, on est en direct sur de radio. Ravi de vous retrouver, Michel. Dernière chronique de l'année. Hein.
Oui, bonjour Joël.
Allez, on en reparlera du générique si on le changera pour 2024. Mais tout de suite, votre 106e chronique, vous allez parler de l'actu et Betelgeuse qui nous fait un clin d'œil.
Voilà, cette étoile de la constellation d'Orion est l'une des plus brillantes du ciel. Et comme c'était prévu, elle a bien été occultée dans la nuit du 11 ou 12 décembre par l'astéroïde Leona de 68 km de diamètre circulant dans la ceinture principale d'astéroïdes entre les orbites de Mars et de Jupiter. On peut trouver des vidéos de l'événement, si je peux dire, car il ne dure que quelques secondes, sur Internet, notamment sur le site du magazine Ciel et Espace de l'AFA, l'Association française d'astronomie. Contrairement à ce que nous avaient montré des simulations avant la date prévue, qui avaient tout simplement gommé l'étoile sur une photo de la constellation, la vidéo ne montre qu'une baisse importante de son éclat, mais pas une disparition totale. En effet, l'astéroïde est trop petit dans le ciel pour masquer entièrement cette étoile, qui est une véritable géante, l'une des plus grandes connues, avec un diamètre d'environ 800 à 1000 fois celui du Soleil. C'est-à-dire que si on la mettait à sa place, elle absorberait toutes les planètes jusqu'à Mars et peut-être même Jupiter quand elle est gonflée au maximum. Cet effet de baisse de luminosité peut être dû à la grande sensibilité des caméras utilisées pour filmer l'occultation et il est possible qu'à l'œil nu, on ait vu l'étoile complètement disparaître. Il fallait être très motivé pour descendre dans le sud de l'Espagne afin d'observer cet événement très bref, au maximum 6 secondes. Mais, comme je l'avais expliqué la dernière fois, c'était dans un but scientifique, puisqu'en balayant l'étoile, l'astéroïde produisait une sorte de scanner de sa surface, permettant d'y déceler d'éventuelles irrégularités pour mieux comprendre le fonctionnement de cette supergéante rouge qui est dans un stade d'instabilité précédant son explosion en supernova. Malheureusement, la récolte n'a pour le moment pas donné des résultats bien spectaculaires. L'équipe de l'Observatoire de Paris semble avoir mal choisi son site, à l'ouest de Séville, car ses photos sont voilées par des nuages d'altitude et il n'y a pas d'occultation apparente. Il faut dire qu'il y avait une marge d'incertitude sur la trajectoire exacte de l'ombre de l'astéroïde sur la Terre. D'autres observateurs en Espagne ou en Italie ont obtenu des images qui montrent une chute de luminosité. Mais dans une première analyse, on ne détecte pas d'irrégularité dans la courbe de lumière obtenue, qui semble parfaitement symétrique, donc sans irrégularité à la surface de l'étoile. Mais c'est encore trop tôt pour se prononcer définitivement, car toutes les données exploitables collectées doivent être regroupées par Miguel Montargès de l'Observatoire de Paris, afin de les analyser plus précisément, ce qui prendra sans doute des semaines. Donc Bételgeuse conserve encore ses secrets pour le moment, dont sa distance exacte, car elle est trop brillante pour être mesurée par la sonde européenne Gaïa, qui cartographie avec précision toutes les étoiles de notre voisinage dans la Voie lactée. On sait que ce doit être dans les 600 années-lumière. C'est dire à quel point elle est lumineuse pour être aussi brillante dans le ciel à une telle distance.
Alors on a perdu la communication avec Voyager 1.
Voilà. Bien vu, en anglais.
In the text.
Cette nouvelle est très préoccupante, car c'est la sonde la plus éloignée de la Terre et qui continue à nous fournir des informations sur son environnement aux confins du système solaire. Je rappelle qu'avec sa jumelle, Voyager 2, ou 2, on va dire, elles avaient été lancées en 1977 pour bénéficier d'une configuration favorable des planètes extérieures pour leur rendre visite en seulement quelques années, situation qui ne se produit que tous les 176 ans. Et c'est ainsi que ces engins ont effectué cette mission baptisée Grand Tour, je le fais en français, pour approcher Jupiter en 1979, Saturne en 80 et 81, Uranus en 1986 pour Voyager 2 et Neptune en 1989 pour Voyager 1. Et leurs trajectoires se sont poursuivies depuis 46 ans jusqu'à les amener aux limites externes du système solaire, qu'on appelle aussi héliosphère, frontière où le vent solaire se heurte aux influences des autres étoiles voisines et que Voyager 1 aurait franchi en 2012. C'est dire si ces sondes sont précieuses pour nous renseigner sur le milieu interstellaire. Voyager 1, s'éloignant au rythme d'environ 500 millions de kilomètres par an, est maintenant à plus de 24 milliards de kilomètres de nous, soit plus de 5 fois la distance de Neptune au Soleil. Et les communications radio avec elle nécessitent un délai de presque 45 heures entre l'envoi d'un message et la réception de la réponse, en utilisant les plus grandes antennes du monde, le DSN, Deep Space Network. Malheureusement, les mesures de son environnement qu'elle nous transmet régulièrement ont fait place depuis le 14 novembre dernier à une suite de 1-0, sans signification, qui se répète en boucle, comme si la sonde buguait, selon une annonce de la NASA datée du 12 décembre. Ce n'est pas la première fois que ces engins rencontrent des problèmes de communication, comme par exemple en juillet dernier, quand une commande erronée avait mal orienté l'antenne de Voyager 2 qui ne pointait plus correctement vers la Terre. Mais à chaque fois, les équipes de l'agence spatiale ont pu surmonter les problèmes techniques. Cette fois, la situation est jugée préoccupante. Les ingénieurs ont pu déterminer que la sonde continue à recevoir les commandes envoyées par la Terre et à les exécuter. Ils ont déterminé que l'origine de l'anomalie semble être un problème de communication entre l'un des trois ordinateurs équipant Voyager, le FDS, Flight Data System, ou Système des données de vol, et le TMU, l'unité de transmission de la télémétrie, c'est-à-dire des mesures effectuées. Ils ont déjà tenté d'arrêter et redémarrer le FDS pour le remettre dans un état antérieur à la panne, donc un reboot, mais la transmission continuait à être incohérente. Il faut bien comprendre qu'outre la lenteur des communications à des distances aussi énormes, on a affaire à des technologies informatiques des années 1970, donc avec des puissances de calcul dérisoires, relativement peu de mémoire et des logiciels très simplistes si on les compare à nos dispositifs actuels. Le FDS fonctionne en 16 bits, alors que nos PC actuels sont en 64 bits, et sa mémoire n'est que de 16 kilooctets, autant dire totalement ridicule, même par rapport aux mémoires internes de nos processeurs actuels. La NASA estime qu'il faudra sans doute plusieurs semaines à ses équipes pour définir une nouvelle stratégie afin d'essayer de résoudre le problème, mais on n'a pas encore perdu tout espoir d'y parvenir. Donc, une affaire à suivre.
Et on a d'autres mauvaises nouvelles en ce qui concerne les missions spatiales, Michel.
Alors, pour faire suite à la dernière chronique, on a eu ce dernier mois différentes informations qui viennent compléter ce que j'ai pu dire la dernière fois, et malheureusement, à chaque fois, ça va dans le mauvais sens. Par exemple, pour la fusée européenne Ariane 6, dont on déplore les retards, puisque le premier tir initialement prévu en 2020 était maintenant espéré pour début 2024, après l'essai complet de son premier étage le 23 novembre dernier. Eh ben non, le lendemain de ma dernière chronique, le 30 novembre, le directeur général de l'ESA, l'Agence spatiale européenne, a précisé que ce premier essai n'aura lieu qu'à l'été, entre le 15 juin et le 31 juillet. Le premier exemplaire de la fusée doit quitter l'Europe fin janvier ou début février, à bord du navire cargo Canopé, et devrait arriver en Guyane fin février pour être installé sur son pas de tir à Kourou à partir d'avril. Et pour continuer avec l'ESA, on a aussi de très mauvaises nouvelles pour son lanceur léger Vega, dont j'avais annoncé le tir réussi le 8 octobre. Ce devait être l'avant-dernier avant un ultime lancement en 2024 avec le satellite d'observation de la Terre européen Biomass. Eh ben non, à cause d'un gros pépin. Comme l'a révélé le 4 décembre le constructeur italien Avio, deux des quatre réservoirs de son dernier étage ont été égarés. Entreposés dans un bâtiment à Colleferro, au sud de Rome, un site d'Avio en cours de rénovation, ils avaient été mal référencés dans le système censé suivre les composants vitaux. Et ils ont finalement été retrouvés dans une décharge où ils ont été broyés. Ils sont donc inutilisables et on ne peut pas en construire d'autres, car comme c'était le dernier exemplaire de ce lanceur, leur chaîne de production a été fermée. L'ESA est donc placée devant un dilemme entre tenter le lancement avec des vieux réservoirs d'un ancien prototype de la Vega avant son premier vol en 2012, dont on n'est pas sûr du bon fonctionnement, ou à l'inverse, hybrider la fusée en lui montant l'étage de sa future version Vega C, qui a malheureusement raté son premier essai en décembre 2022 et ne devrait être opérationnel qu'en 2026.
Alors, est-ce que les nouvelles sont-elles meilleures de l'autre côté de l'Atlantique ?
Alors, selon la fameuse maxime du premier ministre québécois Daniel Johnson en 1960, « Quand je me regarde, je me désole. Quand je me compare, je me console. » En faisant un petit tour du côté de la NASA, on va voir que tout n'est pas rose non plus aux USA, notamment pour le programme lunaire Artemis. La dernière fois, j'avais relaté l'échec du lancement du Starship de SpaceX le 18 novembre, explosé après sa séparation pour le premier étage Super Heavy, environ 3 minutes après le décollage. Le vaisseau Starship poursuivant son vol encore 5 minutes avant d'être détruit à son tour, ce qui était un peu mieux que la première tentative du 20 avril où c'est tout l'ensemble qui avait été sacrifié après moins de 3 minutes de vol car on en avait perdu le contrôle après l'échec de la séparation. Le mois dernier, j'avais expliqué en quoi ces retards de mise au point de ce vaisseau lourd de SpaceX risquaient de repousser le retour des humains sur la Lune car il doit jouer le rôle crucial de navette entre la capsule Orion de la NASA transportant les astronautes depuis la Terre et la surface lunaire, et ce, dès la mission Artemis 3 prévue en 2025, alors que des étapes clés de cette mission ne sont pas encore réalisées, comme le ravitaillement en carburant pour qu'il puisse atteindre la Lune, et un alunissage et redécollage réussi sans équipage. Je ne croyais pas si bien dire, car le 30 novembre a été rendu public un rapport du GAO, c'est un peu l'équivalent américain de notre Cour des comptes, dans lequel il est dit peu probable que la mission d'atterrissage sur la Lune ait lieu en 2025 comme prévu. Il pointe notamment les retards pris dans la mise au point du HLS, Human Landing System, donc la version du Starship destinée à poser les astronautes sur la Lune puis les remonter en orbite, estimant qu'il ne sera pas au point au mieux avant début 2027. Mais il y a aussi des retards pour les nouveaux scaphandres lunaires, dont la NASA a confié la fabrication à la société privée Axiom, notamment une modification permettant de prévoir une réserve d'oxygène d'urgence. En août dernier, les déclarations de Jim Free, responsable des systèmes d'exploration à la NASA, avaient déjà introduit des doutes sur Artemis 3, en laissant entendre que le contenu de la mission pourrait être changé pour respecter le délai prévu de 2025. En clair, il s'agirait de renoncer à l'alunissage, donc au retour des astronautes sur la Lune, et de se contenter d'une mission en orbite lunaire, ce qui est déjà l'objectif d'Artemis 2, toujours prévu en principe en novembre 2024. Pour être un peu optimiste, SpaceX a procédé la semaine dernière à un test des moteurs de son troisième exemplaire du Starship, et selon les dernières nouvelles, il serait prêt pour un lancement dans les prochains jours. Selon un article publié par CNBC sur son site, il semblerait que si ce vol se déroule bien, il soit procédé à un transfert de 10 tonnes d'oxygène liquide d'un réservoir à l'autre. Même si c'est encore loin de l'exploit de transférer du carburant d'un vaisseau à un autre en orbite, l'objectif pour SpaceX serait de démontrer à la NASA sa capacité à mesurer et contrôler en vol un tel transfert, ce qui est une opération très délicate. Malgré cette perspective récente d'une avancée significative, je reste néanmoins sur mon opinion exprimée le mois dernier. Si les USA continuent à prendre du retard dans son programme Artemis, peut-être que ce sont les Chinois qui signeront en premier le retour sur la Lune, plus de 50 ans après Apollo.
Car ça bouge dans le spatial pour la Chine.
Voilà, le 14 décembre dernier, l'avion spatial chinois, surnommé Shenlong, ce qui doit vouloir dire dragon divin, a été lancé par une fusée Long March 2 et placé en orbite basse autour de 350 km d'altitude. Doté de petites ailes pour venir se reposer en douceur pour être réutilisé, il ressemble un peu à une mini navette spatiale, assez similaire au X-37B américain construit par Boeing, mesurant dans les 9 mètres de long, et qui par coïncidence est prévu lui aussi pour un lancement très proche. Tous les deux sont des vaisseaux automatiques inhabités, et on en sait très peu sur leur mission qui semble avoir un caractère plutôt militaire, sous des prétextes scientifiques. Pour Shenlong, c'est sa troisième mission après le court test de décembre 2020, puis la deuxième mission d'août 2022, qui s'est achevée en mai de cette année. Il a attiré l'attention 4 jours après sa mise en orbite, en larguant des petits objets dont on ne sait rien de leur fonction. Certains émettent des signaux et pourraient être des satellites de communication. Et faute d'informations précises, les hypothèses foisonnent sur Internet. Depuis des échanges avec des bateaux chinois, jusqu'à des communications avec des cellules chinoises secrètes installées sur le sol américain. À lire certains sites, on se croirait presque dans un film de James Bond comme Moonraker. Plus sérieusement, on peut s'intéresser aussi à une autre nation asiatique, le Japon, qui va bientôt tenter à son tour de se poser en douceur sur la Lune, après les Soviétiques, les Américains, la Chine et l'Inde, qui a réussi à poser Chandrayaan 3 le 23 août dernier. La JAXA, agence spatiale japonaise, a annoncé que lundi 25 décembre, sa sonde SLIM, lancée le 7 septembre, avait réussi à se placer en orbite lunaire. Je rappelle que ce long délai est dû à la trajectoire choisie, qui, au lieu de viser directement la Lune, ce qui nécessite une grande dépense d'énergie, procède par une orbite elliptique autour de la Terre qu'on élargit progressivement jusqu'à atteindre la Lune. Si tout se passe comme prévu, elle devrait entamer sa descente vers le sol lunaire le 20 janvier et se poser près du petit cratère Chioli de 270 mètres de diamètre pour y étudier les roches, les comparer avec les roches terrestres et fournir des informations sur l'origine de la Lune. D'une masse de 730 kg, ce petit atterrisseur n'est pas doté d'un rover pour se déplacer sur la surface lunaire, contrairement aux sondes lunaires chinoises Chang'e et Chandrayaan 3 et son petit Pranayan de 26 kg.
Et pour finir, un petit retour en astronomie avec une découverte réalisée par des astronomes amateurs.
Alors à l'époque des grands télescopes spatiaux comme le JWST de 6,50 m ou des énormes télescopes terrestres comme les 4 VLT de 8,20 m ou le futur ILT de 39 m, on pourrait croire qu'il n'y a plus beaucoup de place pour les amateurs et leurs petits instruments. Une actualité toute récente vient pourtant contredire cette impression. 5 amateurs viennent de découvrir une petite nébuleuse dans la constellation de Cassiopée. Et en plus, c'est un rémanent de supernova, c'est-à-dire ces filaments torturés de gaz qui subsistent des siècles après l'explosion d'une étoile massive. Nommée nébuleuse des Néréides par ses inventeurs, c'est aussi une des plus grandes que l'on connaisse, avec une taille environ 6 fois la pleine Lune dans le ciel, comparable aux fameuses dentelles du Cygne, peut-être connues de certains auditeurs qui s'intéressent à l'astronomie, dépassée seulement par la nébuleuse des Voiles dans l'hémisphère sud. L'histoire de cette découverte commence avec un astronome amateur américain, Bray Falls, qui réalise un panorama de 4 photos de la région située entre Céphée et Cassiopée, avec une simple lunette de 10 cm. Il transmet ces images à un amateur allemand, Marcel Dreschler, pour qu'il l'étudie, car il est connu pour avoir à son actif plusieurs découvertes de nébuleuses. Et celui-ci remarque effectivement une zone intéressante, des filaments sur l'image réalisés avec le filtre oxygène 3, mais en bordure du champ couvert. Il met alors sur pied une équipe avec 3 autres amateurs français, Yann Sainty, Nicolas Martineau et Richard Galli, que je connais personnellement pour avoir fréquenté la boutique d'astronomie où ils travaillent à Colmar. Et ils font appel à un scientifique pour valider leurs travaux, Robert Fresen, professeur de physique à l'université de Dartmouth et spécialiste des supernovas. En utilisant des instruments basés en France, au Maroc et aux États-Unis, ils ont cumulé plus de 260 heures de pause et après plus de 50 heures de traitement des images obtenues, ils ont produit la belle photo de ce qui est sans aucun doute un résidu de supernova. Pour les auditeurs que ça intéresse, on la trouve sur Internet, notamment sur le site de Ciel et Espace. Ce sont des filaments bleus formant comme un anneau sur un fond nébuleux rouge. Il reste maintenant aux scientifiques à étudier cet objet par spectroscopie, ce qui permettra de déterminer à quelle vitesse gonfle encore cette structure, ce qui, en remontant le temps, donnera la date de l'explosion qui lui a donné naissance. Pour les dentelles du Cygne, par exemple, c'était il y a environ 10 000 ans.
Mais comment se fait-il que les scientifiques ne l'avaient pas détecté plus tôt parmi les milliers de constellations et galaxies qu'ils ont cataloguées ?
C'est une bonne question, et cela vient de sa nature même. Comme je l'ai dit, l'image montre des filaments gazeux bleutés, et cette couleur est caractéristique de l'oxygène. Cela indique un type de supernova particulier, car les plus courantes, celles que les astronomes appellent de type 1A ou 2, sont très riches en hydrogène. Seules celles de type 1B sont très riches en oxygène. Elles correspondent à des étoiles massives qui expulsent d'abord leurs couches externes, composées surtout d'hydrogène, en dépouillant leur cœur bien plus riche en éléments plus lourds comme l'oxygène ou le carbone. On parle d'étoiles Wolf-Rayet, car découvertes au XIXe siècle par les deux astronomes français Charles Wolf et Georges Rayet. Puis, quand le cœur encore très massif, donc provenant d'une étoile très grosse, explose en supernova, le résidu formant la nébuleuse filamenteuse est donc très riche en oxygène. Cela explique pourquoi les astronomes professionnels ne l'ont pas vu, car ils étudient surtout l'hydrogène, qui est l'élément le plus courant de l'univers et source de la plupart des phénomènes qu'on peut y observer. Mais c'est différent pour les amateurs. Car pour des raisons trop compliquées à expliquer ici, quand ils photographient le ciel, ils ne le font pas toujours avec des capteurs couleurs, comme ceux de nos appareils photo ou de nos smartphones, mais ils utilisent des caméras en noir et blanc, pour prendre des images en interposant des filtres ne laissant passer que certaines couleurs particulières. Le H-alpha de l'hydrogène dans le rouge, le O3 de l'oxygène dans le bleu-vert et le S2 du soufre. Et c'est en combinant les 3 images qu'ils produisent un résultat en couleur. D'ailleurs avec différentes possibilités comme un rendu plus naturel en utilisant le H-alpha pour le rouge, qui est la couleur habituelle des nébuleuses sur les photos du temps pas si lointain de l'argentique, mais aussi une combinaison appelée palette Hubble, car utilisée la plupart du temps par les artistes qui mettent en valeur les photos de ce télescope et qui sont souvent majoritairement bleues, couleur artificiellement utilisée pour représenter l'hydrogène, souvent le plus présent sur les images. Et voilà pourquoi la nouvelle nébuleuse a été découverte par un amateur, Breifels, car on pouvait la distinguer sur son image réalisée avec le filtre O3, beaucoup moins utilisé par les professionnels. Il y a donc encore de la place pour des découvertes faites par des amateurs, comme depuis toujours en astronomie.
Allez, on est toujours en direct sur Odo Radio, c'est la chronique Astro numéro 106 de Michel Favret. Et là, Michel, vous allez nous parler de la deuxième partie, sur la deuxième partie de votre chronique, et bien, du sujet, le thème du mois, les communications spatiales par laser.
Alors, ce sujet m'a été inspiré par un article d'actualité proposé par mon moteur de recherche habituel sur sa page d'accueil. Le titre en était « La NASA a reçu une vidéo de chat depuis l'espace lointain ». En plus, il était illustré d'un photomontage grossier montrant une tête de chat dans le casque d'un scaphandre flottant dans l'espace. Ce qui n'était pas sans me rappeler les images des premières tentatives astronautiques où, en raison des risques très grands et d'une énorme part d'inconnu sur la possibilité de survie dans l'espace, on préférait par prudence mettre des animaux dans les capsules avant des humains. Je pense notamment à la pauvre chienne Laika, morte en orbite le 3 novembre 1957, malgré les images trompeuses de la propagande soviétique la montrant de retour sur Terre en pleine forme. Petit hommage au premier être vivant envoyé par l'homme dans l'espace, à bord de Sputnik 2, seulement un mois après le lancement du premier satellite artificiel Sputnik 1 et 3 ans et demi avant l'envoi du premier cosmonaute Yuri Gagarin. Je tiens à préciser que je connais les images de Laika par les archives de l'époque, car malgré mon grand âge, qui a encore augmenté d'une révolution supplémentaire accomplie autour du Soleil il y a quelques jours, je n'étais pas encore né en novembre 1957. Mais revenons à notre chat de l'espace de 2023 et à cette actualité. La NASA a reçu une vidéo de chat depuis l'espace lointain, qui est, si j'ose dire, un fake titre, destiné à guicher le lecteur et l'inviter à cliquer sur l'article pour l'abreuver de quelques bandeaux publicitaires en plus. En effet, il n'y avait nul chat dans l'espace. La vidéo montre un chat roux s'énervant après le point rouge d'un laser sur un canapé, tout ce qu'il y a de plus terrestre. Et il n'est pas question non plus d'espace lointain, car cette actualité concerne une distance de seulement, si j'ose dire, 31 millions de kilomètres, ce qui est énorme par rapport à nos références terrestres, mais ne représente qu'un petit saut de puce dans le système solaire, environ la moitié de la distance qui nous sépare de Mars quand cette planète est la plus proche de nous.
Mais alors, quel est l'intérêt de cette vidéo de chat, comme on peut en voir des milliers sur Internet?
Alors, je pense que c'est justement pour ça, le côté familier de ces vidéos comiques d'animaux de compagnie, que la NASA a choisi ce thème populaire pour faire un petit coup de pub à l'expérience qui s'est déroulée le 11 décembre dernier. Nos auditeurs fidèles se souviennent peut-être que fin octobre, j'avais parlé du lancement de la sonde Psyché, partie le 13 octobre vers l'astéroïde métallique du même nom, qu'elle atteindra en mai 2029. À cette occasion, j'avais signalé des innovations technologiques embarquées par cet engin spatial, notamment son système de propulsion ionique et un système de communication expérimentale basé DSOC pour Deep Space Optical Communication, ou en français communication optique pour l'espace profond, qui utilise un laser comme support des transmissions au lieu des ondes radio employées habituellement. Le mois dernier, j'avais relaté le premier essai de réussite de ce système, réalisé le 14 novembre, qui avait consisté à envoyer un signal depuis le JPL en Californie, données bien reçues par la sonde qui se trouvait alors à environ 16 millions de kilomètres de la Terre et qu'elle nous a renvoyé en retour, message bien capté 50 secondes plus tard par le télescope de 5 mètres de diamètre de l'observatoire du Mont Palomar. En effet, avec ces communications par laser, ce ne sont plus des grandes antennes métalliques utilisés avec les ondes radio qui peuvent capter le signal, mais un télescope optique qui reçoit le faisceau laser pointé très précisément dans notre direction. Cette fois, c'est la vidéo du chat qui a été utilisée pour un nouvel essai.
Alors pourquoi est-ce tellement révolutionnaire d'utiliser un laser pour communiquer à travers l'espace?
Là encore, je vais tordre le cou à une information erronée fournie par les articles que j'ai lus sur cette expérience et qui parle de vitesse. Qu'on utilise un laser infrarouge comme le DSOC ou des ondes radio, qui sont en fait des ondes de même nature mais avec une longueur d'onde bien plus grande, on pourrait dire du très lointain infrarouge, le signal se propage dans l'espace exactement à la même vitesse, celle de la lumière. Car toutes ces ondes sont de la lumière, ou pour les décrire en termes plus scientifiques, des ondes électromagnétiques. Ce qui change avec l'emploi du laser, c'est le débit de la transmission d'informations. Et c'est facile à comprendre. Si l'on se représente ces ondes comme des oscillations, si on veut employer un gros mot, on dira sinusoïdales, du champ électrique et magnétique qui se propage dans le vide, c'est en imposant des petites variations de ces oscillations, on dit des modulations, en amplitude ou en fréquence, qu'on peut transmettre de l'information. Pour nos auditeurs qui nous écoutent en modulation de fréquence, la fameuse FM, ce sont des petites variations de fréquence autour de l'onde porteuse à 91,3 MHz, c'est-à-dire plus de 91 millions d'oscillations par seconde, modulation produite par l'émetteur et décodée par le récepteur, que l'on peut leur parvenir notre voix ou la musique diffusée par deux radios. Il est facile de comprendre que plus la fréquence de ces oscillations est élevée, plus on peut passer d'informations dans le même temps. Les systèmes de communication spatiale par radio, par exemple celui des fameux sondes Voyager dont nous avons parlé en début de chronique, utilisent des ondes de la bande appelée X, c'est-à-dire des fréquences de l'ordre de 10 GHz, soit 10 milliards d'oscillations par seconde. Avec les technologies employées dans les années 1980 pour la transmission d'informations, cela autorise un débit d'environ 50 kilobits par seconde, c'est-à-dire à peu près 6000 octets par seconde, ce qui prendrait dans les 20 minutes pour transmettre une photo prise par mon vieux smartphone, qui est très loin des performances photo des tout derniers modèles. Lors des missions lunaires Apollo, des séquences vidéo en direct pouvaient être transmises depuis la Lune, mais d'une résolution et d'un débit bien moindres que nos vidéos actuelles, et en noir et blanc. La vidéo de 15 secondes du chat Tators, qui a été utilisée pour l'essai du DSOC de Psyché par la NASA, est de l'ultra haute définition, UHD, soit un format 4K, envoyé à la sonde qui nous l'a retourné en streaming, c'est-à-dire en temps réel, ce qui nécessite un débit de 267 mégabits par seconde, soit environ 3/4 du débit Internet des abonnés qui ont la chance d'être raccordés par fibre optique, ou environ 5500 fois plus que les communications radio avec les sondes Voyager. La comparaison avec la fibre optique sur Terre est pertinente car dans les deux cas, il s'agit de communication optique infrarouge, sauf que pour la sonde Psyché, c'est du sans fil, ou plutôt sans fibre, et qu'au moment de ce test, elle était environ à 31 millions de kilomètres de nous, ce qui a pris plus de 1 minute et demie au signal pour franchir cette distance, et pas à quelques centaines ou milliers de kilomètres distance entre un serveur Internet et le client sur Terre. De tels débits vont révolutionner les possibilités de transmission dans l'espace pour les sondes et peut-être un jour les missions humaines, lunaires ou martiennes. À titre de comparaison, la NASA indique que pendant cette retransmission, ce sont environ 166 gigas qui ont été reçus de Psyché, soit l'équivalent de toutes les données transmises par la sonde vénusienne Magellan pendant les 4 ans qu'a duré sa mission au début des années 1990. Même si techniquement ça n'a rien à voir, c'est un peu comme passer du câble téléphonique à la fibre optique pour sa liaison Internet. Cela ouvre de nouvelles perspectives pour la récolte et la rapidité d'envoi des données des missions spatiales en faisant reculer les contraintes de transmission. À titre d'illustration de ces limitations, on peut prendre l'exemple de la sonde New Horizons qui a survolé Pluton le 14 juillet 2015, très rapidement à près de 50 000 km/h. À seulement 1 ou 2 kilobits par seconde en raison de la très grande distance, il a fallu environ 9 minutes pour transmettre à la Terre la toute première image à haute résolution de Pluton prise pendant le survol et elle faisait seulement 1 mégapixel. Et pour la totalité des images et données recueillies par la mission, soit dans les 6 gigaoctets, un peu plus que la capacité d'un DVD, cela a pris plus de 15 mois pour tout renvoyer vers la Terre. Avec un débit 5000 fois plus grand, il n'aurait fallu que 1/10 de seconde pour transmettre l'image et 2 heures pour toutes les données de la mission.
Il y a eu une autre expérience de communication par laser ce mois-ci.
En effet, pour compléter cette information sur les transmissions laser, je dois signaler que la NASA avait réussi le 5 décembre un autre test de communication à moins longue portée, car avec l'ISS, la Station Spatiale Internationale, mais bidirectionnelle, c'est-à-dire avec des données transmises dans les deux sens simultanément. Elle utilisait le terminal laser Illumina-T. Enfin, je suppose qu'en anglais, on le prononce Illuminati, comme une célèbre secte secrète très populaire dans les milieux complotistes. Cela signifie Integrated LCRD, Low Earth Orbit User Modem and Amplifier Terminal, ce qui donnerait à peu près en français Terminal LCRD, utilisateur intégré avec modem et amplificateur pour l'orbite terrestre basse. L'acronyme LCRD désignant globalement le projet Laser Communication Relay Demonstration, soit en français le démonstrateur de communication laser par relais. Ce dispositif a été envoyé vers l'ISS avec la mission de ravitaillement de SpaceX lancée le 10 novembre dernier. L'ISS se déplaçant très rapidement au-dessus de la Terre, à environ 28 000 km/h, et à basse altitude, environ 400 km, il lui est très difficile de pointer durablement un laser directement sur un télescope au sol, qui ne peut la voir dans le ciel que quelques minutes. Pour ses communications par radio, c'est le même problème. Et si des possibilités d'échange direct avec des antennes au sol existent aussi, la plus grande partie des communications passe par le relais d'une constellation de 8 satellites de la NASA, appelée TDRS. Pour le test de la liaison laser, c'est la même solution qui était retenue, en passant par un satellite relais en orbite géostationnaire, ce qui le rend fixe par rapport au sol, baptisé tout simplement LCRD et lancé en 2021. Malgré la complexité de ce dispositif, le fait que les distances soient plus courtes autorise des débits plus élevés. Et c'est un échange à 1,2 gigabits par seconde qui a eu lieu lors de cette expérience, soit environ 4 fois plus important que lors de la transmission de la vidéo du chat par Psyché. Ce système de communication, Illuminati, doit équiper la capsule Orion pour la prochaine mission lunaire humaine Artemis 2.
Allez, toujours en direct sur de radio avec Michel Favré pour sa 106e chronique astro. Et là, Michel, vous allez nous parler du ciel du mois et de l'année 2024.
Voilà. Comme chaque mois, je renvoie nos éditeurs vers la rubrique ciel du mois de la section astronomie de notre site web www.constellationsetgalaxies.org. Pour avoir des cartes du ciel, c'est difficile de montrer des cartes à la radio, et avoir plus de détails. Je la mettrai à jour pour janvier le week-end prochain. Depuis que nous avons passé le solstice, vendredi dernier, les jours ont commencé doucement à rallonger. Mais c'est trop récent pour qu'on en voie l'effet sur les longues nuits d'hiver, avec en ce moment le coucher vers 17h30 et la nuit noire à 18h30. L'allongement se fera légèrement sentir fin janvier, avec le soleil se couchant vers 18h et la nuit survenant vers 19h15. En début de nuit, les constellations de l'été ont pratiquement quitté le ciel, excepté le cygne, encore visible à l'ouest avec une portion de la Voie lactée. C'est le ciel d'automne qui occupe la plus grande partie du ciel au sud, avec sa constellation vedette de la saison, Pégase, bien haut dans le ciel, reconnaissable à son grand carré régulier, prolongé à l'est par la double ligne d'étoiles d'Andromède, dans laquelle on peut distinguer, si le ciel est bien noir, la petite tache diffuse de la grande galaxie la plus proche de nous, à environ 2,5 millions d'années-lumière. C'est l'objet le plus lointain que nos yeux parviennent à distinguer, et dans une simple paire de jumelles, on peut déjà la voir comme une petite ellipse. Elle est presque au zénith, c'est-à-dire à la verticale au-dessus de notre tête. Sous Pégase sont figurées des constellations en rapport avec l'eau, le Verseau, les poissons et la baleine, car le cheval ailé est représenté dans le ciel au moment de sa naissance, jaillissant de la mer. Le ciel d'automne est d'ailleurs favorable pour expliquer le rapport entre les constellations et la mythologie grecque, dont elles sont issues puisque 6 d'entre elles, Céphée, Cassiopée, Persée, Pégase, Andromède et la baleine, en fait à l'origine le monstre marin, évoquent la légende d'Andromède. Vers l'est, c'est le ciel d'hiver qui se montre avec sa constellation centrale Orion, dont les 3 étoiles alignées qui dessinent sa ceinture sont parfois surnommées les rois mages, car ils apparaissent dans le ciel dès le début de nuit à l'époque de Noël. Il faut patienter un peu, jusque vers 21h, pour voir l'ensemble des étoiles brillantes qui dessinent le grand jet de l'hiver autour d'Orion, une figure permettant de situer toutes les constellations importantes de la saison. En commençant devant Orion par Aldébaran, du taureau, puis en tournant dans le sens inverse des aiguilles d'une montre, Capella, du cocher, Castor et Pollux, des gémeaux, Procyon du petit chien et Sirius du grand chien, l'étoile la plus brillante du ciel, et pour finir par Rigel, le pied gauche d'Orion, et la barre du jet formée par ses épaules, Bellatrix et Bételgeuse. Fin janvier, la situation aura notablement progressé vers l'ouest, avec en début de nuit le cygne sur le point de se coucher, Pégase déjà à mi-chemin d'aller le rejoindre, et Orion bien plus haut au sud-est, avec toutes les constellations d'hiver levées autour de lui. Côté planète, on peut encore observer Saturne en ce moment jusque vers 22h, mais il a déjà bien entamé sa descente pour se coucher. À l'inverse, la très brillante Jupiter, bien que déjà très haute dans le ciel, ne culmine au sud que vers 20h30. Fin janvier, Saturne se couchera vers 20h, alors que Jupiter passera le méridien en début de nuit pour se coucher vers 1h30. La très brillante Vénus est toujours visible le matin jusque dans les lueurs de l'aube. En ce moment, elle se lève vers 5h30, mais fin janvier, ce sera 6h30, ce qui ne la laissera visible qu'environ 1h30 et moins haute dans le ciel. Courant janvier, Mars commencera à nous revenir fugitivement dans les lueurs du matin, se levant peu de temps avant le Soleil. Comme chaque mois, la Lune produira plusieurs conjonctions avec les planètes visibles. Le matin du lundi 8 janvier, un fin croissant sera assez proche de Vénus, formant un triangle assez régulier avec la brillante étoile Antares du Scorpion, et un peu plus tard et plus loin, Mercure. Puis le soir du dimanche 14 janvier, on pourra voir un fin croissant près de Saturne. Et enfin, le jeudi 18 janvier, le premier quartier se rapproche de Jupiter, environ la largeur de 2 doigts, bras tendus. Comme l'année 2024 commencera dans quelques jours, j'en profite pour annoncer les phénomènes importants qui se produiront dans les 12 prochains mois. Pour les éclipses de soleil, il y en aura 2. Le 8 avril, une éclipse totale, mais qui ne sera visible qu'au Mexique, aux États-Unis et à l'ouest du Canada, donc qui ne nous concernera pas du tout. Puis le 2 octobre, ce sera une éclipse annulaire, c'est-à-dire que la Lune, trop éloignée de la Terre au moment de l'alignement, ne couvrira pas entièrement le disque solaire qui restera visible comme un anneau lumineux. Mais cela ne concernera que l'extrême sud de l'Amérique, le Chili et l'Argentine. Pour les éclipses de Lune, nous ne serons pas gâtés non plus, car celle du 25 mars ne sera que par la pénombre, c'est-à-dire que notre satellite ne pénétrera pas dans l'ombre de la Terre, ce qui ne produira qu'une petite baisse de sa luminosité, quasiment imperceptible à l'œil nu. Et en plus, elle sera déjà sur le point de se coucher quand commencera l'éclipse. Celle du 18 septembre sera un peu plus spectaculaire, mais notre satellite ne pénétrera que d'environ 10% dans l'ombre de la Terre, vers 3-4 heures du matin. Enfin, 2024 nous permettra d'observer 2 phénomènes concernant des planètes, mais sur de longues périodes, des mois. Les anneaux de Saturne sont en train de se refermer à l'approche de son équinoxe qui se produira le 6 mai 2025, comme tous les 15 ans environ. Ça veut dire qu'autour de cette date, les anneaux deviendront invisibles pendant quelques jours, car nous serons situés exactement dans leur plan, comme le Soleil, ne les voyant plus que sur la tranche, très très fine. Nous en sommes encore loin, mais au fil des prochains mois, on va les voir se réduire progressivement. L'autre planète qui nous fera un peu de spectacle est Mars, qui passe à l'opposition tous les 2 ans environ. La dernière fois, c'était le 8 décembre 2022 et la prochaine, le 16 janvier 2025. C'est aussi le moment où cette planète est la plus proche de nous, donc bien plus brillante dans le ciel et plus grosse dans les télescopes. Actuellement, nous sommes à peu près à mi-chemin, donc nous en sommes très éloignés et elle est très proche du Soleil dans le ciel pour l'observer. Mais d'ici la fin de l'année, on va la voir de plus en plus brillante jusqu'à atteindre son maximum d'éclat en janvier 2025. Pour finir, je souhaite par avance à nos auditeurs et à l'équipe d'O2 Radio une bonne et heureuse année 2024, car notre prochain rendez-vous ne sera que le mercredi 31 janvier, un peu tard pour les vœux, mais nous aurons le plaisir d'accueillir les clubs d'astronomie locaux pour qu'ils nous parlent des animations prévues pour les Nuits des étoiles d'hiver, une nouvelle manifestation nationale proposée par l'AFA depuis 2021 et qui seront cette année du 8 au 11 février.
Voilà, merci Michel pour tout ce travail colossal de passionné, certes, voilà, avec cette chronique qui va trouver lieu et place aux côtés des 105 autres constellations et galaxies.org où il y a plein d'infos, certes, il y a hiérarchisé ces chroniques, donc en quelques mots.
En quelques mots, alors le site fait un petit peu l'historique de l'association qui porte Esnolac, Constellations et Galaxies, et que j'animais avec un planétarium qui allait dans les écoles, les collèges de Nouvelle-Aquitaine. Mais la partie vivante du site, c'est la partie astronomie, puisque tous les mois, je mets à jour la page, le ciel du mois, donc avec un peu plus d'informations et plus de détails que ce que je fais ici en résumé. Et la partie chronique O2 Radio, où on retrouve en MP3 toutes les chroniques depuis la première de septembre 2014, dans l'ordre chronologique inverse, c'est-à-dire la plus récente d'abord, celle d'aujourd'hui, je vais la mettre en ligne probablement d'ici la fin de la semaine, et avec un petit descriptif qui donne un peu quels sont les sujets traités, ce qui permet de choisir si on veut aller écouter quelques chroniques, parce que je ne pense pas qu'on va se lancer dans la réécoute complète de toutes les chroniques, les unes après les autres, ce qui serait un peu fastidieux.
Je ne sais pas combien ça fait en volume, 30-40 minutes par chronique multiplié par 105.
30 minutes voilà. Par chronique, ça fait 50 heures d'écoute. Bon, je veux bien que les auditeurs passent une semaine à écouter 8 heures par jour la chronique, mais j'y crois que modérément. D'ailleurs, même pour moi, ce serait peut-être un peu ennuyeux, d'autant que toutes les infos d'actualité sont un peu passés de mode. C'est surtout le thème du mois, donc la deuxième partie, parce que le ciel du mois aussi, c'est valable à un moment donné, et ça n'a plus beaucoup d'intérêt des mois plus tard, quoi.
Prochaine chronique, l'an prochain, 31 janvier, et on aura minima Corinne. Hein.
Oui, j'ai déjà la réponse de Corinne qui m'a dit qu'elle viendrait ou se ferait représenter si elle n'était pas disponible. Je n'ai pas encore...
Mais je crois que pour le 31, nous avait dit que...
Je crois que le 31, c'était bon. Oui, voilà, oui, parce qu'il y avait un petit doute. Alors, pour tout dire aux auditeurs, j'ai un petit doute sur la date. J'ai mis le 31 janvier, qui est le plus probable. Mais il pourrait y avoir un projet de voyage qui fasse que je déplace la date...
Bon,
on en reparlera la prochaine fois.
Bien sûr, voilà, mais ça, y a pas de souci. La sphère privée d'abord, donc certainement le 31 janvier, mais si c'est le 24 janvier, on s'est en courant. En tout cas, merci beaucoup Michel hein, pour tout ce travail fabuleux. On se voit le mois prochain, ça c'est sûr, l'année prochaine, 34, j'allais dire. Allez, merci beaucoup Michel, plein de bonnes choses pour la suite.